Nicolas Struve, correspondance avec la Russie.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
On le connaît sans le connaître, il le sait et ne s'en offusque pas, même si son CV est long comme une attente entre deux plateaux de théâtre ou de cinéma. Que n'a-t-il joué, Nicolas Struve, c'est son nom. Souvent complice d'un Valère Novarina, l'acteur aura servi les textes de Coltès, Dumas, Racine, Ibsen, Hugo, bref, du classique, du répertoire, du lourd. Mais Nicolas Struve a une autre vie, une deuxième vie de passeur-traducteur, passionné, amoureux de la littérature russe. Mais peut-être est-ce la même vie, c'est-à-dire celle d'un homme orchestre, capable d'exhumer une surprenante correspondance avec la mouette entre Anton Tchekhov et Lydia Mizinova, de la traduire aux éditions Arléa et de la mettre en scène. Une Russie fin 19e qui a sans doute ses coursives dans la biographie personnelle de notre invité. Bonjour Nicolas Struve.
Bonjour Yasmine Chouaki.
Parler de la Russie en ces temps de guerre en Ukraine, c'est évidemment une question sensible. Alors on va le faire tout de suite en évoquant une de vos connaissances peut-être, une certaine Tania Frolova du théâtre Knam de Komsomolsk sur l'amour. C'est une ville de Sibérie, me disiez-vous.
C'est une ville qui se trouve tout à fait au bout de la Russie, au bord du fleuve Amour, au fin fond de la Sibérie.
Et Tania vous a confié un extrait d'un de ses spectacles, Le Bonheur. Presque tous ses spectacles sont de résistance au régime. Vous allez nous éclairer après écoute. Il faut imaginer un noir sur le plateau et projeter en grand le visage d'un homme, la cinquantaine. Il parle russe. À gauche du plateau, sous une petite lumière tamisée, une femme assise le traduit.
Моя встреча с театром «Нам» в 1993 году стала самым важным событием моей жизни.
La rencontre avec le théâtre Knam en 1993 a été l'événement le plus important de toute ma vie. Travailler avec des gens pour qui la création est plus importante que le souci de son bien-être personnel, créer des spectacles en transgressant les traditions théâtrales, c'était un bonheur réel et sans fin. Même si tout autour régnait le chaos ou la criminalité, le chômage. Mais nous avions la liberté. Et puis, Poutine est arrivé. Alors, qui parle dans ce court extrait du bonheur? Et surtout, Nicolas Struve, comment présenter Tania Frolova?
Qui parle? C'est un des acteurs du théâtre Knam. Tania Frolova a créé ce théâtre il y a donc plus d'une vingtaine d'années, peut-être une trentaine d'années, dans une toute petite ville, donc au fin fond de la Sibérie. Ils n'ont jamais été subventionnés par personne, mais la qualité de leur travail fait qu'ils ont tourné souvent dans l'Europe entière, notamment en France.
Oui, théâtre en résistance au régime de Poutine.
Alors résistance, qu'est-ce que c'est une résistance? Une résistance poétique.
Qui n'est pas dans la ligne, qui n'est pas dans la propagande.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'aucun peuple ne parle d'une seule voix. Et Tania Frolova le sait, donc elle fait entendre toutes ces voix discordantes qui ne souhaitent pas se fondre dans un discours idéalisant, dans un discours officiel, on pourrait dire.
Aujourd'hui, elle ne vit plus en Russie.
Aujourd'hui, elle est accueillie en France, notamment par le Théâtre des Célestins. Elle n'a pas demandé exactement un asile parce qu'il serait à ce moment-là impossible pour elle de rentrer. Alors, elle est dans une situation intermédiaire où elle a un contrat de travail long. Enfin, c'est très compliqué. Mais ils sont... Depuis qu'il y a eu cette déclaration de guerre, il y a eu un certain nombre de gens qui ont démissionné de leur poste, un certain nombre de gens dans les structures artistiques, dans les théâtres, dans les festivals, d'autres qui ont été démissionnés, certains sont retirés discrètement à la campagne par une vieille expérience.
Ouais. Voilà. C'est aussi pour dire que tous les Russes ne sont pas à mettre dans, vulgairement dit, le même sac.
Ben non, tous les Russes ne sont pas à mettre dans le même sac, mais il en va de même pour tous les peuples. Quoi,
Difficile cette guerre en Ukraine, vous dont l'histoire est liée à la Russie, Nicolas Struve?
C'est pas la guerre en Ukraine qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est... Enfin, la guerre en Ukraine, ça, elle n'est pas difficile, elle est terrible. Ce qui est difficile, c'est que depuis 25 ans, je ne sais pas combien de temps, quelque chose qui avait pu s'ouvrir dans ce pays se referme inéluctablement et que finalement personne ne l'a réellement remarqué. Lorsqu'en 2008, la Russie a occupé la Géorgie sur des prétextes totalement fallacieux, aucun commerce n'a été interrompu, les robinets de tous les gaz et de tous les pétroles ont continué à couler. Et donc aujourd'hui, il est un peu tard pour s'apercevoir de ça. Dans Le Monde, il y avait un papier absolument magnifique d'Anna Politkovskaya, qui est une journaliste qui a été assassinée en 2008 et qui, en 2006, trace déjà le portrait de qui est cet homme.
Alors cette histoire liée à la Russie, on va la raconter et elle commence pour vous en chœur. Que vous rappelle ce cœur des moines de Cheftogne?
j'ai grandi dans cette atmosphère très religieuse, mais en même temps très libérale. Mon père était médecin et prêtre, donc j'allais souvent à la messe, j'étais enfant de cœur. C'était une petite église, c'est-à-dire que c'était l'église des émigrés russes en France, et c'était une église sans richesse. Donc c'était une église plutôt sympathique parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lutte de pouvoir, il n'y avait pas d'or, il n'y avait pas de pompe. Et donc il y avait quelque chose d'assez bienveillant, même si aujourd'hui je m'en suis éloigné pour plein de raisons. Parce que en fait, dans cette liturgie, aussi belle soit-elle, à un moment donné, il est dit « catéchumènes, retirez-vous ». Et les catéchumènes, c'est ceux qui ne sont pas baptisés. Et en fait, les catéchumènes m'intéressaient beaucoup.
Ah oui ?
J'avais très envie de connaître tous les catéchumènes du monde. Ouais. Donc j'avais pas envie de rester, même si émotionnellement, affectivement, je suis très proche et très touché par tout cela. J'avais envie d'entrer dans un monde où personne n'avait à se retirer.
Ouais. Voilà. Et cette tradition religieuse, vous diriez que c'est en même temps une sorte de marqueur d'identité ?
Voilà, de quoi s'est fait l'identité ? C'est fait de plein de choses, hein, mais c'est évident que les chants que vous avez entendus enfant, ou les récits qu'on vous a faits, les histoires, et j'ai entendu beaucoup d'histoires, depuis Moïse dans son berceau, vous voyez, toutes les histoires qu'on entend enfant quand on est dans une église orthodoxe, oui, elles m'ont façonné et je pense que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de bonnes choses. D'avoir pris une distance aussi, c'est une bonne chose. Et en fait, voilà, ça s'appelle la dialectique, quoi. On fait la synthèse de toutes nos influences et on essaie d'en faire quelque chose, oui.
Pour vous, le pays d'origine est synonyme de quel mot ?
Je sais pas, tasse de thé. Parce que tous les Russes boivent du thé.
C'est la Madeleine déjà.
C'est de la Madeleine déjà, oui. J'ai une compagne qui a écrit un livre qui s'appelle La cuisine de l'exil, où elle raconte 25 histoires de gens qui se sont retrouvés en France après divers voyages.
Ouais.
Et elle les fait parler autour des recettes de cuisine, de ce qui leur est resté. De ce qu'ils ont pu transmettre aussi à travers la cuisine.
Ouais, voilà. Il y avait la cuisine de l'exil à la maison ?
Oui, il y avait en partie la cuisine de l'exil. Ma mère n'était pas une bonne cuisinière, mais mon beau-grand-père, qui m'a presque élevé, lui avait été cuisinier dans un restaurant russe chez Dominique. Mmh. Et ma grand-mère avait été serveuse toute sa vie. Donc oui, il y avait la cuisine à la maison.
On vient d'où dans la famille ?
On vient d'un peu partout. C'est déjà des métèques en fait, à la base, puisque c'est des Anglais, des Russes, des Allemands, des Juifs qui arrivent en Russie. Et tout ce petit monde-là, à un moment donné, repart de Russie parce que c'est plutôt des officiers, des bourgeois, des intellectuels, et donc au moment de la Révolution, ils quittent la Russie. Donc c'est des doubles voyages ou des triples voyages. Voilà.
Où votre mère est-elle née ?
Alors ma mère est née à Wilmsdorf, en Allemagne, dans un camp de transit en 22.
On quitte la Russie, pourquoi à ce moment-là?
Ah ben là, c'est très clairement les Russes blancs qui quittaient la Russie. Certains parce qu'ils avaient réellement lutté contre le pouvoir naissant, le jeune pouvoir communiste. D'autres parce qu'ils n'en partageaient pas les opinions. Si je ne me trompe pas, j'ai un arrière-grand-père qui a quitté la Russie sur un bateau en 19 ou un peu plus tard en 21. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire. Où on en avait entassé un certain nombre d'intellectuels qui étaient un peu dérangeants. Pour le jeune pouvoir communiste.
Les bolcheviks.
Les bolcheviks, oui.
Qu'est-ce que vous savez de cette filiation juive dans la famille?
Ah ben, ma filiation juive, je l'ai découverte très tard. Je suis fils de pauvre, j'étais à l'église orthodoxe toute mon enfance. Et puis, il y a une dizaine d'années, un de mes frères a retrouvé les traces d'un grand-oncle, c'est-à-dire un frère de ma grand-mère maternelle, dont on croyait qu'il avait disparu dans les années 30. C'était un décorateur de cinéma. Et il avait été évacué à Alma-Ata. Et là, il avait épousé une femme juive et toute une partie de sa famille était revenue au judaïsme. Donc j'ai quelque part de la famille sur le Mont Golan. Mmh.
Mais cette identité, si on peut parler d'identité juive, vous a été cachée, je ne sais pas si c'est le terme, mais vous la découvrez très tard en tout cas.
Alors je la découvre tard et en même temps, pas vraiment. En fait, quand on était adolescent, ma mère nous a quand même mis entre les mains des bouquins de Paul Yakov sur l'histoire du judaïsme, des bouquins de Kessler, Le Dernier des Justes, des choses comme ça. Donc on était un peu vaguement au courant. Et il se trouve que ma mère et ma grand-mère avaient participé assez activement au fait de faire passer des enfants juifs en zone occupée.
Elle aurait dû recevoir une médaille, médaille des Justes.
Oui, elle aurait dû recevoir la médaille des Justes, mais ma mère, qui n'en était pas une contradiction près, ne voulait pas parce qu'elle avait beaucoup d'amis libanais, arabes, palestiniens et qu'elle ne souhaitait pas recevoir la médaille des Justes tant que les territoires occupés en 67 resteraient occupés. Voilà.
Est-ce que votre nom, parce que vous vous appelez Struve, est-ce qu'il a été francisé?
Non, pas du tout. Non, c'est un nom balte, je crois, danois, balte. Non, ça veut dire mal peigné.
Ouais. Oui. Donc en tout cas, famille qui arrive donc dans les années 20, 30, enfin petit à petit en France. Famille très bien intégrée, on va dire.
Oui.
Et en même temps, immigration un peu à la dure au quotidien.
Alors immigration à la dure, bah, du côté de ma mère, c'est chambre d'hôtel pendant 30 ans, c'est des petits boulots, l'impossibilité donc de garder presque les enfants. Donc ma mère était en pensionnat toute son enfance. Voilà.
Vous vivez dans ce que vous appelez une certaine petite Russie et voire dans une chaleur, celle de la communauté.
Moi, j'appelle ça la Little Russia pour faire un peu allusion à New York ou je ne sais pas quoi. Mais où c'est des petits milieux où tout le monde se connaît, c'est comme des villages. Il n'y a pas que du positif, il y a aussi des ragots, des commérages. Tout le monde se surveille un peu.
Mais quelque chose de soudé quand même.
Mais j'ai un souvenir, moi en tout cas, en tant qu'enfant, d'un monde où tout le monde a sa place. Et un monde où aussi bien l'imbécile que le génie cohabitent. Où le riche et le pauvre cohabitent, coexistent et parlent. Et aux yeux d'un enfant, c'est précieux. Et peut-être que mon amour du théâtre vient de là. Parce que c'est un travail communautaire, collectif, le théâtre.
À propos de ce vilain mot d'intégration, est-ce que vous avez eu un travail à faire?
Non, je crois pas. D'abord parce que l'émigration russe était quand même plus facilement vivable puisqu'on peut se fondre dans la population. On est parpéré d'emblée.
Oui. Hein,
on ressemble à tout le monde.
Russe,
ça se voit pas. On a le type caucasien, c'est le cas de le dire.
Algérien ou ivoirien, ça, par contre.
Oui, c'est plus remarquable dans les deux sens du mot, peut-être.
On les embrasse.
Oui, surtout. Et non, puis pas ma famille. Ma mère parlait parfaitement français parce qu'elle avait grandi dans un pensionnat catholique. Bon, voilà. Toutes les contradictions du monde sont là. Et mon père fait des études. Non, voilà.
Alors, comme vous grandissez dans cette sorte de Little Russia, Nicolas Struve, forcément la musique, on va entendre Bach, et puis la musique de la langue vous atteignent assez rapidement. La langue, notamment celle de Anna Armatova, cette grande poétesse née en 1889 à Odessa, dans l'Empire russe.
Requiem, 1935-1940 годы. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ несчастью был.
L.
L. Comme langue d'amour.
Et Anna Armatova, oui, dans cette réalisation signée Laura Pinto. Anna Armatova lisant son Requiem, que ne ferait-on en sol majeur pour vous plaire, Nicolas?
Pourquoi?
Bah, pourquoi Anna Armatova et ce Requiem en particulier?
C'est une voix à la fois extraordinaire et folle. Elle a été quand même en butte à beaucoup de persécutions. On a tué son premier mari, son fils a été envoyé en prison à plusieurs reprises. Et donc elle écrit ce Requiem, elle dit « J'étais avec mon peuple ».
Elle dit
« J'étais avec mon peuple » au moment où ce peuple souffrait, recevait, etc. Et elle raconte, c'est au tout début du Requiem, une femme s'approche d'elle, c'est ce qu'elle dit, elle lui demande « Et ça, vous pouvez le raconter ?» Et elle dit « Oui, je peux le raconter ». Et ce que je trouve magnifique chez cette femme, c'est cette capacité à être souverain avec rien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un réellement qui tient la tête haute tout au long de sa vie, qui réussit à ne la baisser jamais. Et moi, je trouve que c'est une bonne leçon pour tous. Voilà.
À quel moment la langue russe rentre comme ça
La langue russe rentre très
dans
tôt,
votre vie, poétiquement
Non, je parle russe toute ma petite enfance. Je vais à l'école très tard, à 5 ans. Je rentre en maternelle en dernière année seulement, donc je parle russe à la maison. Même si c'est plutôt un pidgin où on mélange le français et le russe, on commence une phrase en français, on finit une phrase en russe. Et puis après, effectivement, adolescent, j'ai plutôt envie d'être avec les copains français. J'écoute du rock, je lis les surréalistes. Enfin bon, j'essaie d'être français, quoi, etc. Et puis on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, ça vous rattrape. J'assistais à un cours de fac, oui, sûrement, ou pas, je ne sais pas. Et en tout cas, je tombe sur Tsvetaeva. Je commence à lire, je m'aperçois que j'ai du mal à lire, que je ne suis pas très bon, que j'ai un peu perdu la langue, etc. Et je me dis, bah, tiens, comment je vais faire pour comprendre? Si je lis vite, je ne vais pas y arriver. Donc, je vais lire lentement, donc je vais traduire. Donc, je vais chercher le sens de chaque mot, de chaque phrase. Et je me suis attelé à la traduction de poèmes et d'une correspondance de Tsvetaeva, de quelques pièces. Et je me suis un peu réapproprié ma langue. Et j'ai fait quelque chose que j'aimais. Je me suis occupé de poésie.
Voilà. Et c'est sur le chemin de la traduction que vous renouez le lien avec cette langue russe?
C'est-à-dire que la traduction, c'était pour moi le moyen de me récupérer ma langue d'une certaine manière. Alors ça me demande un travail, évidemment, je pense, 10 fois plus grand que ceux de la plupart des traducteurs. Parce que je ne suis pas un très grand russisant. Même si avec le temps, je le redeviens un peu. Et oui, je récupère quelque chose d'une histoire, d'une part de moi.
Alors tout le monde connaît plus ou moins la Mouette, la célèbre pièce de Tchekhov, mais personne ne connaît véritablement Lydia Mizinova, son inspiratrice. Qui sont-ils au moment de leur rencontre à Moscou en 1889?
Tchekhov est déjà Tchekhov. Il a 29 ans, il a déjà publié plus de 500 nouvelles, il a eu le prix Pushkin. Et elle est à 19 ans et elle est prof de russe dans le même gymnase, enfin le même lycée ou le même collège que la sœur de Tchekhov. Et elles deviennent amies toutes les deux. Et un jour, Macha l'invite à la maison. Et là, il y a une très belle rencontre, enfin très drôle.
C'est-à-dire ?
Alors c'est Macha qui raconte. Ils arrivent à la maison, à l'appartement qui avait 2 étages où vivaient les Tchekhov à l'époque. Et Lika est dans l'entrée, et à ce moment-là, un des frères de Tchekhov descend l'escalier pour aller dans le bureau où travaille Tchekhov. Et en chemin, il jette un œil et il voit une fille plutôt jolie, voire très jolie. Donc il rentre dans le bureau de Tchekhov et elle lui dit « Oh, il y a une beauté dans l'entrée ». Alors Tchekhov, intéressé tout de même, se lève, sort, et tous les deux, ils remontent l'escalier pour jeter un œil. Et puis ils disent, non, c'est pas mal. Et donc ils redescendent l'escalier encore une fois pour jeter un œil. Et ils font ça à plusieurs reprises. Et donc Lika dira après, j'avais l'impression que dans ta maison, il y avait tout le temps des hommes qui montaient et descendaient l'escalier. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, personnellement, Nicolas Struve, et même charmé dans cette correspondance ?
Ben, plein de choses, mais je pense que le premier choc, ça a été une lettre de Lika, bizarrement. Enfin, bizarrement, parce que c'est Tchekhov qui est connu, etc. Une lettre qu'elle envoyait de Paris.
Ça voyage beaucoup, hein ?
Enfin, lui voyage beaucoup, c'est un auteur européen, au fond. Et elle vit en France pour prendre des cours de chant, à la fois pour suivre un amant qui lui fera un enfant et qui l'abandonnera, qui reviendra à ses anciens attachements, comme on dit dans La Mouette. Et donc, elle est seule à Paris. L'amant est déjà parti. Elle a déjà laissé tomber, ou elle a compris qu'elle n'avait rien à attendre de lui. Elle est enceinte et elle écrit une lettre à la fois triste, mais quand même malgré tout, elle aussi, elle essaie de tenir la tête haute. Donc assez enjouée finalement à Tchekhov, avec beaucoup de blagues et de plaisanteries. Bon, cette lettre m'a fait penser, moi, à ma famille émigrée.
Ah oui.
Elle m'a fait penser à ma grand-mère, à maternelle notamment. Eh ben, la solitude et la difficulté de la vie. Et c'était marrant que ce soit à Paris. En plus, elle disait des choses rigolotes sur la France. Les Françaises sont des mégères, ou je sais pas ce qu'elle dit.
Donc elle vous écrivait un peu, quoi.
Hein. Peut-être, je sais pas.
Alors, pour entendre un peu de quel bois littéraire Tchekhov se chauffe hein, dans ses lettres, à destination de Lydia, on va écouter une lettre que vous avez choisie. Je sais plus très bien laquelle, d'ailleurs.
Alors, c'est une lettre du... Moi non plus. Elle est prise assez courte. C'est une lettre du 27 mars 1892. Donc, vous vouliez que je la lise en russe.
On aimerait bien, sur le majeur.
Voilà. Ouais. Bon, vous savez, je suis comme tous les enfants d'émigrés ou petits-enfants d'émigrés. J'ai toujours très honte de ma langue.
27 mars 1892 года. Мелихова, Лика, лютый мороз на дворе и в моем сердце. А потому я не пишу вам длинного письма, какое вы хотели получить. Мы же для вас ничто. Мы прошлогодные скворцы, пение которых давно уже забыто. Ртуть в термометре ушла к -10. Вы все ругательные слова, начинающиеся с буквы «С», я пускаю по адресу этой ртути и в ответ получаю от нее холодный блеск глаз.
27 mars 1892, Меликову, Лика. Le froid est féroce dehors, comme dans mon cœur. C'est pourquoi je ne vous écris pas une lettre aussi longue que celle que vous voudriez recevoir. À quand le printemps, Lika, à quand le printemps? Prenez cette dernière question au pied de la lettre et n'y cherchez pas de sens caché. Hélas, je suis déjà un vieux jeune homme. Mon amour n'est pas un soleil et ne fait le printemps ni pour moi, ni pour l'oiseau que j'aime. Lika, ce n'est pas toi que j'aime si ardemment. Ce que j'aime en toi, ce sont mes souffrances passées, ma jeunesse perdue. Vous savez bien que ce n'est pas moi qui parle, mais Lermontov en moi. Je suis sa réincarnation. C'est chic, hein ?
Merci beaucoup, Nicolas Struve, pour ce moment en sol majeur autour de cette correspondance avec la mouette. Et à la lecture, j'ai trouvé que Tchekhov apparaissait un peu comme un personnage volontairement provocateur, sans limites, sentimental, travaillé en même temps par les codes de la bonne société bourgeoise, jaloux par jeu. Est-ce que vous diriez que Tchekhov se transforme lui-même en personnage ?
Mais tout à l'heure, j'ai raconté la première rencontre, on dirait déjà une mise en scène.
C'est vrai,
en fait.
Oui.
C'est déjà comme une espèce de regard extérieur qu'il jette sur lui-même et sur elle. Il fait tout un petit jeu et en fait, il ne va jamais cesser de jouer avec elle.
C'est du théâtre entre eux.
Oui, et je crois que parce que lui, c'est quelqu'un qui voit du théâtre en tout. Et peut-être parce qu'il ne peut pas faire autrement. Peut-être pas pour rien que c'est un grand génie du théâtre. C'est que le théâtre était en lui, et le possédait profondément. Dans la correspondance, je fais une petite citation à un moment donné d'une phrase de Tchekhov où il dit en gros « Ma jeunesse a été terrible, etc. J'ai pas eu de tendresse. Je sais que les gens ont besoin de tendresse, je sais que les gens ont besoin d'attention, etc. Mais moi, je n'arrive pas à leur en donner. »
Donc ça batifole. On sent que ça batifole beaucoup entre les deux et on se pose la question « Est-ce qu'ils s'aiment, est-ce qu'ils ne s'aiment pas ?»
Oui, c'est intranchable.
Très joueur, Tchekhov. Il a cette phrase, par exemple, il dit « Je vous aime passionnément, comme un tigre, et je vous offre ma main. » Signé le maréchal des Cabots. PS, communiquez votre réponse par mimique, vous êtes bigleuse.
Oui, non, mais il est terrible. Des fois, C'était, on a travaillé avec une chorégraphe et souvent elle disait « Ah, quel salaud, ah, quel salaud
ouais. !» On a l'impression que le véritable amour de Tchekhov, c'est l'écriture.
Alors, vous savez, il y a un truc marrant, c'était dans les trois sœurs, il y a Irina, une des sœurs, il y a le baron, ils doivent se marier, mais elle ne l'aime pas. Et lui, il lui dit « je vous aime, dites-moi quelque chose. » Et elle lui dit « Mon cœur est un piano fermé à triple tour dont j'ai perdu la clé. » Et je pense qu'en fait, c'est Tchekhov qui parle de lui-même. Mmh. Et les conséquences sont terribles parce que le baron, par la suite, se laissera tuer. Donc, il n'est pas sans savoir que cette incapacité à s'ouvrir, il n'est pas sans savoir que ça a des conséquences.
Le drame est toujours là, hein, à fleur de plume, on va dire. Et puis, malgré cette ambiance apparemment très, très bourgeoise, avec des préoccupations de crinoline, hein, on a cette sensation-là en lisant, Tchekhov est dans un moment de vie assez particulier. Il part et il revient de l'île Bagne de Sakhalin, où là, il va enquêter sur les conditions de vie des bagnards.
Ben, cet homme est un travailleur extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a interrogé en personne, lui-même, les 10 000 déportés de l'île. Et sur chacun, il a fait une fiche. C'est un homme qui se lève, je sais pas, le matin à 4h et qui travaille jusqu'à 22h et ensuite va jouer aux cartes et s'amuser avec les amis. Mm-hmm. C'est au sens propre un génie, c'est-à-dire c'est une capacité de travail dont on n'a pas la mesure.
Oui, on est en même temps dans ce temps épistolaire qui n'existe plus, où on prend le temps d'attendre des semaines la réception d'une lettre, par exemple. Le temps est très important.
Oui. Je fais bref parce que les grands poètes sont souvent complexes et ça vaut le coup de dire ce qu'ils en disent eux-mêmes, de lire ce qu'ils en disent eux-mêmes à travers leur correspondance. Et puis parce que c'est une sorte de poésie au carré, la lettre. Parce que plutôt la distance y est matérialisée. Celui qui écrit est seul. À qui il s'adresse? Il y a un très beau texte de Mandelstam qui s'appelle « De l'interlocuteur ». Il s'adresse à quelqu'un dont il ne sait pas qui c'est. Et au fond, le correspondant est dans la même situation. Alors lui, il sait à qui il s'adresse. Mais malgré tout, il y a ce travail sur la distance. Il y a une forme de nostalgie voilée, d'absence au monde, malgré tout. Et je pense que ça stimule pas mal les écrivains.
L'écriture permet de vivre le temps et l'absence.
Ben, y a Tsvetaeva qui dit un truc très beau. Elle dit « vivre, écrire, écrire, vivre ». Et on le retrouve extrêmement souvent sous la plume des écrivains. Parce qu'il y a une nécessité profonde, une nécessité existentielle. C'est quelque chose qui se sent très fort dans les lettres.
Mais est-ce que cette correspondance permet aussi de percer le fameux mystère de la création de Tchekhov? Est-ce que la mouette est vraiment tirée de la vie de Lydia Mizinova?
Et ça demande une réponse un peu longue. Alors, le premier metteur en scène important de la mouette, Nemir Vyshnyantchenko, dit « Moi, parce qu'il drague Tchekhov, parce que comme tout bon directeur de théâtre, il va avoir les meilleurs textes, il drague Tchekhov en lui disant « On ne s'est pas bien occupé de tes textes, mais moi, je saurais le faire, etc. » Et il dit notamment « Je saurais éclairer les drames cachés de tous tes personnages. » Alors moi, je ne crois pas du tout que Tchekhov ait caché spécialement des drames. Je ne crois pas qu'on puisse éclairer cette pièce. Moi, je n'ai jamais vu une mouette entièrement bien montée. Ce n'est pas possible. Il y a trop de choses. Et je crois que c'est fait exprès. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il dit « J'ai été contre toutes les lois de la scène. » Et on croit que c'est une blague, c'est une pause. Mais pas du tout. Je pense qu'il le sait pertinemment. Qu'il en a fait beaucoup trop et que sa pièce est tout à fait indémêlable entièrement. Et donc, le but, ce n'est pas de démêler. Le but, ce n'est pas d'éclairer. C'est juste de laisser voir toutes ces vies qui aiment mal, qui se battent mal, qui réussissent, qui échouent. Et c'est parce qu'on voit ces vies qui réussissent, qui ratent et qui ont du mal et qui se réjouissent que nous, on peut penser à la nôtre et que le théâtre devient notre théâtre.
Alors j'étais étonnée en vous écoutant lire cet extrait de la correspondance d'entendre votre voix en russe. C'est comme si vous descendiez dans les graves.
Ah oui,
non, il y a quelque chose là, une transformation, un morphing presque linguistique et physiologique. Et en même temps, vous avez eu cette phrase terrible, vous dites « j'ai honte de ma langue ».
Mais je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui si bien admis et entendu en France qu'on parle une autre langue et qu'on puisse la parler dans le bus, dans le métro.
Ah oui, vous pensez qu'il y a une forme de censure comme ça? Comment... C'est-à-dire?
C'est peut-être inévitable, j'en sais rien. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, on n'entend pas si aisément des langues étrangères. Pourtant, la France, Paris notamment, est quand même une ville merveilleuse de cosmopolitisme, de rencontres, etc. Donc à Paris, peut-être que ce n'est pas le cas. Il y a ça, Et puis, il y a deuxièmement, ce qui arrive à la plupart des enfants d'émigrés ou de petits-enfants d'émigrés, c'est que leur langue s'altère. Et ce n'est plus la langue du pays, c'est une langue un peu vieillie, un peu arrêtée dans le temps. Et puis, il y a un peu d'accent qui apparaît, etc. Donc oui, il y a une sorte de gêne.
En tout cas, traduire cette correspondance vous a permis à vous, vous le disiez plus ou moins tout à l'heure, de circuler un peu dans les coursives familiales, dans le 19e qu'auront connu vos ancêtres. Nicolas Struve.
Ce temps est un temps sûrement important pour moi parce que la famille était entre guillemets heureuse, n'avait pas vécu cet événement traumatisant de l'immigration, etc. Donc peut-être il est important pour moi de retourner dans un temps sans bouleversement, dans un temps sans tragédie. Moi j'aime bien les endroits sans limite. Et vraiment, Paris est une très belle ville. Si vous promenez dans le sentier sans regarder le premier étage, vous regardez le deuxième étage, vous êtes en plein dans le Paris de Balzac. Vous êtes dans un autre siècle. Et j'aime bien ces circulations-là. J'aime bien aussi bien les circulations géographiques que les circulations temporelles, on va dire ça comme ça.
On va dire ça comme ça. En tout cas, cette correspondance avec la Mouette, vous l'avez mise en scène notamment au Théâtre des Déchargeurs à Paris. On va en écouter un court extrait, mais qu'est-ce qu'il faut imaginer sur le plateau ?
Ben, il faut imaginer un homme et une femme qui se cherchent, se trouvent de temps à autre et se manquent beaucoup, mais avec humour.
Le jour du mariage n'est pas encore fixé, il dépend de quand vous pourrez venir. Je ne peux franchir un pas si décisif sans vous. Seulement, petit père, n'aimez plus personne. Ça me ferait trop souffrir.
Lika, je tiens le pari qu'avec le temps, on fera de vous une bonne femme méchante.
Ah, sans doute ai-je contracté auprès de vous le bacille de la sagesse.
Criarde, à la voix glapissante.
Et de la prudence.
Qui prêtera de l'argent contre intérêt.
Eh, voilà ce que ça a donné.
Si l'on vous donne des coups, je viendrai m'occuper de vous. Et faire la garde malade.
Я увидел во сне можжевеловый куст. Я услышал вдали металлический хруст аметистовых ягод. Услышал я звон, и во сне в тишине мне понравился он. Я почуял сквозь сон легкий запах смолы. Отогнув невысокие эти стволы, я заметил во мраке древесных ветвей чуть живое подобие улыбки твоей. Можжевеловый куст, можжевеловый куст, остывающий лепет изменчивых уст. Легкий лепет едва отдающий смолой, проколовший меня смертоносной иглой. В золотых небесах за окошком моим облака проплывают одно за другим. Облетевший мой садик безжизнен и пуст. Да простит тебя Бог, можжевеловый.
On dirait en sol majeur sur RFI et on dirait du Brassens, mais ça c'est parce que je ne comprends pas ce que dit Alexandre Soukhanov que vous avez programmé, Nicolas Struve.
Mais j'ai programmé Soukhanov parce qu'il m'a accompagné sur un des spectacles que j'ai fait. Il chante un poème d'un poète qui s'appelle Zabolotsky, qui comme pas mal de Russes a une vie aussi très cabossée, qui a été plusieurs fois en camp, etc., qui en est revenu, qui au départ était un écrivain assez radical, qui était proche des absurdistes, et qui a un peu calmé son écriture, ou qui l'a adouci, ou qui l'a rendu plus classique. Et ça, c'est un poème qui commence « J'ai vu dans un songe ». Et je me suis soudain dit, oui, toute cette Russie, qui fait partie de mon histoire, toute cette histoire russe, je la vois un peu dans un songe. Voilà.
On a parlé de votre lien à la langue russe, mais il y a aussi votre lien à la langue française. Et ce lien, il passe notamment par l'auteur Valère Novarina, qui a un rapport, non ?
Oui, absolument.
Vous me dites non.
Si, si.
Vous étiez inquiet ?
Totalement. Non, je n'ai pas ce texte.
Ah non, il y a pas. Mais nous avons la voix de Valère Novarina grâce à vous, parce qu'il a un rapport au langage, on le sait, très particulier. On peut dire rapidement que dans son théâtre, le personnage, c'est le langage. On va l'écouter dans une lecture que vous nous avez ramenée, qui s'appelle « Prière de notre corps ». Et cet extrait de « Fragments du jeu des ombres et de lumière du corps », il est accompagné par le violoncelliste Anssi Kartunen. On tend l'oreille et surtout, on ouvre bien les chakras.
Notre crâne, qui êtes en nous comme une pierre au milieu de la pensée, notre bouche, qui êtes en nous comme un trou au milieu de la figure, notre chair, qui êtes en nous comme une pensée par quelqu'un d'autre, notre œil, qui êtes en nous comme la lampe du corps, notre corps, qui êtes en nous comme la tête des membres, et vous, surtout, notre pied qui est sagement dans nos chaussures, et vous, surtout, toutes nos minutes qui sonnent des heures, restez ! Notre être, qui êtes en rien, répandissez-vous au-dessus de là-bas, au centre, du sur-delà, du par-delà, plus loin que le loin et au-delà de tout ce qui a dépassé le trou, par le sommet du trou, duquel, par-dessus lequel, au-deçà de par-dessus duquel, au-delà de ci-ci, duquel, plus loin que par-dessus, par-deçà le tout, et par-dessus tout, ici, hut ! Et ici, au-delà du hut ! Et au-delà de par-delà, ici, hut ! Prière ainsi fut faite. Prière ainsi fut vite faite.
Une prière qui peut rendre croyant poétiquement. Alors, pour l'acteur et pour l'oreille entre deux langues que vous êtes, Nicolas Struff, que représente Novarina, avec qui vous avez beaucoup travaillé ?
Ça représente la plus belle salle d'agrès et de gymnastique possible pour un acteur.
Oui. On est athlète de la langue ?
On est athlète de la langue, on est athlète du jeu, on est athlète de tout. Et on est athlète... de la pensée, on est athlète de l'émotion aussi, on est athlète du burlesque, ben, c'est un cadeau magnifique.
Le mot est une couleur pour lui, on dirait d'ailleurs il est peintre lui-même, hein. Est-ce que c'est votre cas à vous ?
Non,
la langue française, ce serait une couleur.
Alors non, moi je vois tout, je vois les mots en noir comme sur le papier. Mais
c'est une couleur le noir ?
Oui, c'est une...
Alors, c'est une non-couleur.
Il y a une vieille
blague.
Savoir si une télé noir et blanc est une télé en couleur ou non, c'est une vieille blague. Non, mais voilà, c'est une grande joie. Ça peut être une grande souffrance parce que c'est des fois extraordinairement difficile à apprendre. J'ai vu des copains qui maudissaient Valère parce que ce qu'ils avaient à apprendre était fou, au sens propre.
La folie vous intéresse, la folie du langage ?
La folie en soi, c'est pas très rigolo, la vraie folie. La folie clinique, c'est pas très rigolo.
Non, mais là, on parle de la folie du langage.
Mais...
D'une certaine manière, de ne pas être aux ordres de la langue patrimoniale.
Alors voilà, ça, c'est totalement le cas. Par exemple, les salles, quand on joue des spectacles de Valère, il y a des salles extraordinairement rieuses, qui comprennent tout de suite. C'est pas des jeux d'esprit de gens savants, pas du tout. C'est une libération des mots. Et ça veut dire qu'une chose... Il est encore possible de dire des choses en dehors de la langue officielle.
Mais là, chez vous, Nicolas Struff, être en dehors, parce que c'est d'une certaine manière ce que Valère Novarina propose, parce qu'il est en dehors de la syntaxe officielle, classique, etc., d'une norme comme ça, ça renoue aussi avec votre lien à la langue russe, où vous êtes en dehors, puisque vous passez par la traduction finalement. Vous restez en dehors des langues ?
Je reste muet devant cette, non, mais devant cette analyse très forte. Il y a un amour, en tout cas, de ce qui n'est pas dit dans la langue, de ce qu'elle pourrait dire. Et c'est pareil, il y a des frontières entre les pays, mais il y a aussi des frontières entre les lignes, on pourrait dire. Et en fait, on aimerait se glisser entre les lignes pour entendre et voir ce qu'on ne voit pas, qui n'est pas aperçu. Et la langue de Valère fait partie de ces langues. Et une dernière chose, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a énormément écouté les gens parler. Et qu'en fait, quand vous le lisez, quand vous le dites à haute voix, vous retrouvez finalement le parler de tout le monde, mais rendu comme si on avait ouvert l'enclos et que les vaches s'étaient égayées partout. Quoi.
Si on ouvre le tiroir du quotidien chez vous, est-ce qu'il y a des mots que vous ne pouvez dire que en russe ou que en français ?
Par exemple, anticonstitutionnellement, je peux le dire qu'en français. Mais il y a des mots qui n'existent qu'en russe. Mais c'est vraiment effectivement des mots très tendres, des mots d'enfance, des mots de gentillesse. Mais je ne les utilise pas nécessairement. Ils sont là en moi, ils dorment. Ils plongent parfois, comme le bouchon de la ligne de pêche.
Ils attendent leur heure ?
Ils attendent leur heure, oui. Il faut leur donner.
Quel est votre premier port d'attache?
Je me suis dit que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est resté entre les lignes, on pourrait dire, entre les pays, entre les frontières. Et donc, je me suis dit que moi, mon port d'attache, c'est le plateau du théâtre. C'est un endroit un peu utopique, comme ça. C'est une sorte de pays où tout est possible. On peut être roi, on peut être mendiant. On peut être dans un pays, faire un pas, être dans un autre pays, ce qui est malheureusement pas du tout le cas dans la réalité. Et on est aussi dans une surforme sur un plateau de théâtre.
Une surforme, c'est quoi ?
C'est-à-dire jouer, c'est une grande décharge d'adrénaline. Donc vous êtes dans une énergie phénoménale. On pourrait dire que le théâtre, c'est une sorte de dispositif qui a été inventé il y a 2500 ans. Et celui qui se met au centre ou celle qui se met au centre... reçoit une décharge folle et ce qui le rend ou la rend capable de ce dont est capable un ou une actrice, un acteur ou une actrice.
Alors on parlait de la langue de Molière, vous savez qu'on célèbre en ce moment le 400e anniversaire de la naissance du grand homme et pour France Culture, le comédien Francis Huster récemment s'est fâché tout rouge face au Fabrice Luchini et autres acteurs qui déclame les classiques en respectant les alexandrins, un peu comme au XVIIe siècle. Alors ça veut dire quoi ?
Jouer sur scène du Molière, c'est non pas le rythmer, le phraser, c'est s'y abandonner. Ça veut dire que là, je ne veux pas vous parler de Molière. Je veux que ce soit Molière qui vous parle. Et Molière a inventé, exactement comme Chaplin avec Charlot, une marionnette, puisqu'il s'agit de Charles Spencer Chaplin et de Jean-Baptiste Poquelin. Tous les deux ont inventé leur marionnette. La marionnette, c'est Charlot. C'est pour ça qu'on dit qu'on va voir les films de Charlot et pas les films de Chaplin. Et c'est pour ça qu'on dit que l'œuvre est celle de Molière, l'acteur, la marionnette qui a pris possession de cette œuvre pour la faire vivre. Et là... On est assez, au bout d'un demi-siècle de ce métier, que ceux qui pensent avoir dans leur esprit la bonne méthode pour incarner, pour être là, pour parler. Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous ? Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie ! Laissez-moi là, vous dis-je. J'ai quoi ? Mais c'est honteux ! Il y en a marre de ça, je veux plus l'entendre. Molière n'est pas un classique, c'est un moderne. Ça veut dire, et c'est ça que fait magnifiquement Eric Ruffé, la troupe de la Comédie Française, c'est-à-dire que Molière, à chaque fois, à chaque troupe amateur, professionnelle, peu importe, doit être réinventé, doit être revivifié.
Ça s'appelle un moment de radio, Nicolas Struve. Alors, est-ce que vous êtes un déclamacteur comme Luchini ou un acteur génialement moderne comme Francis Huster semble le penser ?
Il y a bien d'autres possibilités, surtout, puis on peut être les deux. Il n'y a pas l'un ou l'autre. Des fois, on est un déclamateur et des fois, on est un génial moderne. Puis des fois, on est un tout nul des années 60 ou je ne sais pas. Ouais. Enfin, je veux dire, tout est possible. Hein. Mais ce qu'il dit est plutôt assez beau. Bon, après, la forme est la sienne. Mais je suis assez d'accord. Il y a une marionnette. Il y a quelque chose qui ne nous appartient plus sur le plateau. Et réellement, le théâtre est fait pour que quelque chose ne nous appartienne plus, mais appartienne à tous.
Mais la question très sérieuse, c'est quel acteur voulez-vous être vous-même ?
Ah, bah écoutez, c'est Novarina qui a dit une très belle phrase Alors c'est très prétentieux de dire les grands acteurs aiment avant tout disparaître. Alors je ne sais pas si je suis un grand acteur, pas certain, mais...
C'est l'art de la disparition.
Mais c'est l'art de la disparition. Et alors, pas comme acteur, mais comme metteur en scène, il m'est arrivé, donc, des fois, quand je faisais des spectacles, de sentir que le spectacle n'appartenait plus à personne. C'est-à-dire, il n'appartenait plus à l'auteur, il n'appartenait plus aux acteurs, il n'appartenait plus au metteur en scène, ni même au public. C'était l'air du temps qui parlait. C'était quelque chose... D'un seul coup, on avait ce qu'on était. Et ça, ça appartient à personne.
Alors on a entendu la voix effectivement de Valerno Varina, on va entendre celle de Mandelstam qui a eu cette phrase terrible d'ailleurs au moment où il était envoyé au goulag. Il dit « Je ne devrais pas me plaindre, je vis dans un pays où la poésie compte, on tue des gens parce qu'ils en lisent ou parce qu'ils en écrivent. »
Пошел птенцы, чай солью пили черницы, и с ними балует цыганка.
Quel effet vous fait cette voix venue du fond des âges, Nicolas Stru?
Ah, je trouve ça magnifique, cette espèce d'abandon absolu à la sonorité, au rythme. Ça me bouleverse complètement.
Et vous savez, ce sera ma dernière question en sol majeur, où en est le peuple russe aujourd'hui avec la poésie, lui dont on dit qu'il est nourri de propagande?
Mais je pense que la poésie, c'est comme les ruisseaux souterrains, ça ressort toujours.
En rappelant que vous publiez donc chez Arléa Correspondance avec la mouette, Anton Tchekhov, Lydia Mizinova, on va se quitter, Nicolas Struve, avec la musique de Miko Nissim, avec qui vous projetez de faire un spectacle prochainement. Pourquoi il vous intéresse, ce musicien?
Miko est un grand inventeur, d'abord c'est un grand jazzman, et puis c'est un grand compositeur pour moi. C'est un homme tout en éclat, tout en rupture et tout en mélodie en même temps.
Qui va piano va fortissimo avec en sol majeur. Émission à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio ou bien sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, ou encore derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on répète toute la nuit, c'est promis, pour se retrouver demain autour de Raymond Doumbé.